Mes chers amis, dans ce jeudi 14 août 1980, nous continuons notre étude sur les droits du Fils de l'homme. Et ce soir encore, nous allons être à l'écoute du Fils de l'homme. Depuis une semaine, nous avons cherché à entendre ce que celui qui aimait à s'appeler sur la terre le Fils de l'homme avait à nous dire. Et nous avons vu qu'au jour où les grands de ce monde parlent beaucoup des droits de l'homme, peu nombreux sont ceux qui se soucient des droits du Fils de l'homme, qui ne sont rien d'autre que les droits de Dieu sur toutes ses créatures. Car le Fils de l'homme n'est autre que le Fils unique et éternel de Dieu. Dans une première soirée, on a vu que le Seigneur, le Fils de l'homme, avait droit à être aimé. Lui qui nous a aimés le premier, et qu'il nous demandait, si nous l'aimons, de nous aimer les uns les autres. Nous avons vu ensuite qu'il avait droit à être obéi, car lui, comme Fils de l'homme, s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, et à la mort de la croix. Est-ce qu'il attend de nous? C'est notre obéissance. Je veux miséricorde, je veux votre obéissance plus que les sacrifices. L'obéissance a pour le Seigneur plus de prix que tous les sacrifices. Et la foi n'est qu'une obéissance. La foi, c'est obéir à ce qu'il a dit. Nous avons vu ensuite que le Fils de l'homme avait sur la terre le droit de pardonner nos péchés. Et nous voulons croire qu'il n'y a pas que le paralytique qui a entendu cette parole « Tes péchés sont pardonnés », mais que parmi vous, il y en aura qui auront reçu cette parole « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés ». Et s'il a pu vous dire cela, c'est parce que lui avait payé pour tous vos péchés au prix de sa vie. Ensuite, nous avons vu qu'au fond, ce Fils de l'homme a vraiment tous les droits sur nous, puisqu'il est le maître du sabbat, de la loi qu'il a établie. Il en est le Seigneur. Enfin, nous avons aussi compris que ce Fils de l'homme avait le droit à confesser ou à renier ceux qui, sur la terre, auront eu le courage de confesser son nom ou ceux qui auront eu par lâcheté, par indifférence, le courage de renier son nom. Il nous confessera devant le Père et devant les saints anges qui sont dans les cieux si nous avons osé confesser son nom. Si nous avons pu dire « Il est mon sauveur ». Il est mon Seigneur. Il est mon bien-aimé. Mais si, en revanche, nous l'avons renié, il ne pourra pas faire autrement que de nous renier et de dire, je ne vous connais pas. Ce soir, en Jean 5, verset 27, nous allons voir que le Fils de l'homme a reçu le pouvoir de juger. Jean chapitre 5. Mais je lirai déjà à partir du verset 20 pour laisser le texte dans son contexte. Le Père aime le Fils et il lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci. Il venait de guérir un paralytique. Et s'il fera des œuvres plus grandes que celles-ci, c'est afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qu'il a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort spirituelle à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Et pourquoi Dieu a-t-il donné à son Fils le pouvoir de juger? Il a dit que le Père ne juge personne. Ne juge pas, il a remis tout droit de juger à son Fils. Pourquoi le Fils a reçu ce pouvoir de juger? Parce qu'il a subi le jugement. Comprenez-vous? C'est lui qui a subi le jugement et il l'a subi pour tous les hommes, sans aucune exception. Il a subi le jugement. Il n'est pas mort seulement pour nos péchés, est-il dit, mais il est mort pour les péchés du monde entier. De sorte que tous les hommes peuvent être sauvés. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Nous lisons cela dans la première épître de Paul à Timothée, chapitre 2, verset 4. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Du côté de Dieu, il n'y a pas d'obstacle. Et le Seigneur est mort pour tous. Mais ne seront sauvés que ceux qui l'auront accepté. C'est comme cela que vous honorez le Fils. Il y a deux manières d'honorer le Fils. Vous pouvez l'honorer aujourd'hui, et vous l'honorez aujourd'hui si vous l'acceptez. C'est ça, honorer le Fils. Si vous prétendez croire en Dieu et si vous honorez le Père, vous devez recevoir son Fils. Il y a une autre manière d'honorer le Fils, c'est de ne pas se convertir sur la terre et d'être obligé de ployer les genoux devant lui avec les êtres infernaux dans l'éternité. Car l'enfer entier sera au pied du Seigneur et tous les damnés seront des adorateurs du Seigneur, mais privés de la félicité éternelle. Et cela, la damnation. Loin du Seigneur, pouvant voir le bonheur des élus, pouvant voir la part heureuse qui leur avait été offerte et qu'ils ont méprisée, tous ceux qui sont damnés sont des croyants, car de l'autre côté, tous croient. Mais que leur est-il arrivé? Eh bien, ils ont méprisé les appels du Seigneur. Ils ont rejeté sa grâce. Ils n'ont pas voulu lui dire oui. Et puis maintenant, dans l'éternité, ils se rendent compte qu'ils brûlent. Ils brûlent de quoi? D'amour. Ils brûlent d'amour. Mais cet amour ne peut pas être. On peut leur appliquer cette parole. Il vaut mieux se marier que de brûler. Ne vous représentez pas les flammes éternelles comme on vous les a dépeints si souvent dans le Moyen-Âge et dans cette imagerie pieuse qui nous a si souvent déformés. C'est un feu d'amour, mais d'amour qui ne peut pas être satisfait. Et on est con. Et c'est trop tard. Parce qu'on n'a pas accepté l'alliance dans la vie, sur la terre. C'est sur la terre que vos péchés pouvaient vous être pardonnés. Alors pourquoi ne l'accepteriez-vous pas? L'union avec Jésus se fait maintenant. Dans l'éternité, c'est trop tard. Éternellement, trop tard. On ne peut pas revenir en arrière. Car, vous imaginez-vous ce que c'est comme enfant pour Dieu que de vous voir rejeter son Fils qu'il vous a donné, vous ayant tant aimé. Et ce que c'est pour le Fils d'avoir consenti à prendre les péchés du monde. Et quand vous pensez aux péchés du monde, vous pouvez mettre toutes les turpitudes du cœur humain. Et je ne m'en vais pas en faire la liste. Mais nous savons ce qui se passe dans ce monde. Les horreurs qui se déroulent dans des foyers, dans des familles, dans la société de plus en plus corrompue, où la loi de Dieu est transgressé, où l'on se moque ouvertement de tous ces enseignements, où l'on trouve tout à fait normal, parce qu'on est dans un monde moderne, de penser qu'il nous faut une nouvelle morale, où l'on ne fait plus de différence entre ce qui est saint et ce qui est profane, entre ce qui est pur et ce qui est impur. Et alors, le Seigneur nous dit, eh bien, que celui qui est souillé se souille encore, mais que celui qui est saint se sanctifie encore. Voyez-vous, nous arrivons à une heure où il n'y aura plus de place pour les tièdes. Nous pouvons tous être des tièdes. Nous pouvons tous nous accuser de tiédeur pour le Seigneur. Mais les circonstances qui vont venir vont vous obliger à prendre position. Ou bien, vous vous repentez de votre tiédeur, et le Seigneur, par sa grâce et son amour, fera de vous des bouillants pour lui, ou bien alors, vous restez dans votre tiédeur, et qu'est-ce qui va arriver? Parce que l'iniquité prévaudra, l'amour de plusieurs se refroidira. Voilà ce que dit l'Écriture. bientôt il n'y aura plus que trois catégories de personnes, que deux catégories de personnes, les trois et les dix. Mais plus de place pour les siennes. J'ai raconté peut-être plusieurs fois dans ma carrière ce qui m'est arrivé en 1941 quand j'étais à genoux devant ma chaise en prière et que je lisais ce chapitre 3 de l'Apocalypse et que soudainement le Seigneur m'a parlé. Es-tu froid pour moi? Je me suis examiné devant le Seigneur, j'ai dit non. Non, je ne suis pas froid pour toi. Tu sais que je t'aime. Tu sais que je te sers et que je te suis consacré dès ma jeunesse. Bien. Alors, es-tu bouillant pour moi? Et vous savez, hein, cette épée, elle va jusqu'au fond de mon cœur. Es-tu bouillant? Et alors, j'ai commencé d'avoir des sueurs. Parce que, vous savez, on peut pas jouer avec Dieu, on peut pas mentir. Et il m'a montré ce que c'était que la vie d'un bouillant pour lui. Et j'ai compris. J'ai dit non, c'est ça. Je suis pas bouillant pour toi. Alors, si tu n'es ni froid ni bouillant, qu'est-ce que tu es? On est coincé, hein? Qu'est-ce que tu es? Et vous savez, c'est tête à tête avec le Seigneur. Ils sont nécessaires. Ils sont nécessaires. Parce qu'ils nous font avancer. Qu'est-ce que tu es? Alors, je me dis, mais, alors, je vais te vomir sa bouche. Car les tièdes, il est bon. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il est un peu plus loin. Aie donc du zèle et repens-toi. Hein? Voilà où c'est. Repens-toi, reconnais ton état, et je suis là. Repens-toi. Repens-toi. Alors on s'humilie, on confesse à fond, sur ce creuset. Seigneur, donne-moi d'être un cœur brûlant pour toi, brûlant d'amour. Mais vous savez, ne pensez pas qu'un cœur brûlant d'amour pour le Seigneur, c'est une personne qui a toujours le nom de Jésus sur les lèvres et qui dit qu'elle témoigne partout, qu'elle parle de Jésus partout. C'est pas cela qui vous est demandé. C'est pas de parler de Jésus partout. Ce qui vous est demandé, c'est vivre Jésus partout. Peut-être que vous ne direz rien. Comprenez-vous? C'est vivre Jésus partout. C'est qu'on voit en vous cette personnalité qui manifeste le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la bienveillance, la bonté, la douceur, la fidélité, la patience et la tempérance, plus exactement la maîtrise de soi. Et cette domination que le Saint-Esprit opère en nous, dans les circonstances les plus difficiles, vous ne perdez pas la tête. Un chrétien, je l'ai dit souvent, c'est un réaliste. Il a la tête sur les épaules, les pieds sur la terre, mais le cœur dans le ciel. Hein? Enfin, mais on est réaliste. On marche sur la terre, on regarde où l'on marche, et puis on reste avec une tête froide, mais avec un cœur chaud. Hein? Un cœur qui aime. Et c'est tellement bon d'aimer. Aimer. L'amour, il est de Dieu. Et quand on aime, eh bien, on est avec Dieu. Vous ne vous trompez pas. On n'a qu'un regret quand l'on perd un être qu'on a aimé, c'est de ne l'avoir pas assez aimé. C'est vrai. Alors, chers amis, puisque le Seigneur nous permet de faire certaines expériences, il n'est pas nécessaire de les refaire, ces expériences. Profitons des expériences, même négatives, que nous avons faites. Ne nous consumons pas dans les regrets. Comprenons que le Seigneur a porté aussi toutes nos fautes et toutes nos lacunes. Et toute cette souffrance que Satan voudrait mettre dans nos cœurs. Et puis, souvenons-nous que nous avons un grand sauveur. Alors, mes amis, je vous ai dit que je vous parlerai de quelques jugements, puisque tous les jugements ont été remis au Fils de l'homme. Et je veux croire que vous ne connaîtrez pas le jugement qui doit tomber sur les pécheurs qui n'ont pas accepté le salut de Dieu. Je lis dans le chapitre 3 de l'évangile de Jean, Jésus dit ceci, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Vous voyez, il n'est pas dit qu'il est déjà jugé parce qu'il a fait des péchés. Nous ne serons pas condamnés ni jugés parce que nous avons fait des péchés. Nous serons condamnés et jugés parce qu'ils n'auront pas voulu de la grâce de Dieu. C'est le refus de la grâce qui nous perd. C'est pourquoi toute bouche sera fermée devant Dieu. On ne pourra pas lui dire, écoute Seigneur, moi je n'en peux rien, je n'ai pas demandé de naître, je suis né pécheur avec toutes sortes de tendances, alors évidemment j'ai commis des péchés. Mais le Seigneur dira, mais ne te juge pas à cause des péchés que tu as pu commettre. Tu savais que tu étais un pécheur, je t'ai dit que j'étais venu pour chercher à sauver ce qui était perdu, et tu n'as pas voulu de moi. Tu es condamné parce que tu as refusé la grâce que je t'offrais. Et c'est cela qui fermera la bouche de tout. Mais nous ne voudrions pas qu'il y en ait ici qui pensent que ça pourra s'arranger pour eux. Ce n'est pas possible. On ne se moque pas de Dieu. Celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père. Et alors, croire au Seigneur Jésus, c'est obéir à sa parole, c'est suivre ses commandements, c'est marcher comme lui a marché. Et voyez-vous, verset 19, il dit, ce jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde. Et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité, il vient à la lumière. Et alors, évidemment, quand je viens à la lumière, qu'est-ce que je vois ? Je vois clair, mais qu'est-ce que je vois alors de moi? Je vois mon péché. Je vois mon péché. Il n'y a pas besoin de me dire que je suis un pécheur, je le sais. Quand je suis dans la lumière du Seigneur, je m'effondre, je m'écroule. Hein. Je suis perdu. L'homme le plus saint, le plus pieux, Ésaïe, quand il a eu la vision du Seigneur dans sa gloire, qu'est-ce qu'il a dit? Malheur à moi, je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Le plus fidèle, Job, quand il a eu la révélation de Dieu, il a dit, j'ai horreur de moi. Je me repens dans la poussière et dans la poussière. Voilà ce que c'est la lumière. Mais le Seigneur ne nous éclaire pas sur notre état seulement, mais il nous montre, et bien maintenant que tu t'es vu, regarde-moi. Je t'aime. C'est ça qui est important. Et on est gagné par son amour. On est happé par son amour. Je t'aime tellement que j'ai pris toute ta grâce. J'ai pris tout ton péché. Et j'ai été fait péché pour toi. J'ai été traité comme si c'est moi qui avais fait tout ça. Voilà comment le Seigneur nous a aimé. De sorte que quand je suis dans les prisons, autrefois, j'ai eu tout un ministère parmi les prisonniers, même parmi les condamnés, à perpétuité, puisqu'en plus, il n'avait pas la peine de mort, Eh bien, j'étais aussi en France et dans les prisons. Eh bien, quand on pouvait dire justement à ces gens que Dieu les aimait et que quelle que soit la cause de leur emprisonnement, le Seigneur était mort pour eux. Qu'il y avait pardon pour eux, c'est quelque chose de merveilleux. Et alors, quand on est au chevet d'un mort, se rend compte qu'il va apparaître devant Dieu, c'est peut-être qu'il a nié pendant toute sa vie même l'existence de Dieu, mais dans ce moment-là, il est saisi par une crainte, et puis il pense que Dieu ne peut pas lui pardonner. Et nous n'avons peut-être que quelques minutes, c'est quelquefois une question de secondes pour lui présenter le salut. Et vous savez, on n'est qu'une prière dans ce moment-là, quand on voit ce regard angoissé. Et quand on sait que l'on peut lui apporter une parole d'espérance à cause du Sauveur que nous lui présentons, hein, puisque ça lui n'est pas par les œuvres, parce que si c'était par les œuvres, il serait condamné, mais qu'il peut recevoir la grâce, que tout a été accompli pour eux, que le Seigneur a sauvé le brigand sur la croix, à quelle heure? À la 11e heure, juste avant qu'il ne trépasse. Le brigand ne pouvait pas descendre de la croix. Et si c'était le baptême qu'il sauvait? Il n'a pas été baptisé, le brigand. C'est pas le baptême qui sauve. Le baptême est un signe de notre foi. Mais on peut avoir la foi sans que le signe ait été donné. Vous n'avez jamais vu Pierre courir avec un goupillon pour asperger le brigand comme ça, là, parce qu'il avait confessé le Seigneur. C'est pas ça. Ce n'est pas ça. En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et il est mort dans la paix. C'est merveilleux. Ça. Oui, devenez simple, accrochez-vous à ces paroles. Le Seigneur n'est pas venu pour juger le monde. Mais, si nous ne voulons pas du Seigneur, alors, la colère de Dieu demeure sur nous. C'est ce que nous lisons verset 36 de ce chapitre 3. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure. Alors, c'est bien clair. Est-ce que vous honorez le Fils aujourd'hui? Si vous le faites, c'est que vous le recevez, et alors vous honorez le Père. Mais si vous ne voulez pas honorer le Fils en le recevant aujourd'hui, demain, par contrainte, vous serez bien obligé de ployer les genoux devant lui et de croire en face de l'évidence. Mais croire en face de l'évidence, ce n'est pas avoir la foi. Comprenez-vous? Le temps béni où il fallait croire sans voir va cesser. Parce que le monde entier va être subitement ébranlé d'une façon étrange et les gens rendront l'âme de peur devant les choses terribles qui vont se passer sur la terre. Et dit le Seigneur, tout cela est annoncé. Et alors, quand ils verront l'agneau venir, l'agneau venant en gloire et en puissance, ils diront aux montagnes tombées sur nous, aux collines couvrez-nous de devant la colère de l'âme. Ils seront saisis de frayeur. La colère de l'agneau vient sur le monde. Mais ils auraient pu échapper à ce jugement de leur péché. C'est le premier jugement. Le jugement de nos péchés a été accompli à la croix par le Christ. Alors, soulignez dans vos Bibles ce verset 24 du chapitre 5. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a... Il n'est pas dit aura, hein. Il a la vie éternelle, il ne vient point en jugement. Pour quelle raison? Parce que Jésus a été jugé à notre place. Il est passé de la mort à la vie. Et ça, c'est considéré comme une vraie résurrection. Nous étions morts dans nos fautes et dans nos péchés. Mais Jésus dit ceci au verset 21, « Comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils de l'homme donne la vie à qui il veut. » Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Et puis, plus loin, il est dit, en vérité, verset 25, en vérité, je vous le dis, l'heure vient. Et elle est déjà venue. Ou, Darby dit, et elle est maintenant. Du temps de Jésus, l'heure était là. Où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. De quelle mort est-il question ici? Des morts spirituelles. Nous étions tous des pécheurs morts dans nos fautes et dans nos péchés. Mais quand on entend la voix du Fils de Dieu, si on accepte cette parole a la puissance de nous ressusciter, de nous faire naître à la vie, à cette vie nouvelle. Ça, c'est la résurrection spirituelle. Avez-vous la vie? Celui qui a le Fils, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. Alors, ceux qui l'auront entendu, cette voix, et qui l'auront reçue, vivront. Et ils sont certains de ne pas venir en jugement. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et dans un autre passage, il dit, celui qui a le Fils a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils, il a peut-être une religion, mais il n'a pas la vie. Votre religion, quelle qu'elle soit, elle ne vous sauve pas. Ce qui vous sauve, c'est c'est lui le Saint. Et l'accepter, encore une fois, c'est pas adhérer intellectuellement à son message, mais c'est le recevoir, lui, sa personne. Et alors, ayant échappé à ce jugement, puisque Jésus l'a subi à la croix, nous savons, comme dit saint Paul, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'est plus question que nous soyons jugés. Mais il est question pour nous, maintenant que le Seigneur a porté le jugement à la croix, il est question que nous avons à nous juger nous-mêmes, comme chrétiens. Et spécialement à quel moment? Quand nous nous approchons de la table du Seigneur. C'est dans le chapitre 11 des Corinthiens qu'est souligné ce jugement de nous-mêmes. Nous sommes sauvés, cela est vrai. Parfaitement, nous sommes entièrement sauvés par notre grand souverain sacrificateur. Vous l'avez lu cela ce matin. Mais comme nous sommes encore dans le monde, un monde où se trouve le péché, il se peut que nous contractions dans notre marche quelques figures. Et nous avons besoin d'être purifiés. C'est ce que le Seigneur a enseigné à ses disciples en leur lavant les pieds. Il lui dit à Pierre, celui qui a le corps lavé est tout net. Il n'a plus besoin que de se laver les pieds. Et le lavage des pieds, c'est ce jugement que l'on fait de soi-même sur nos tendances que nous connaissons très bien. Quand je m'aperçois que j'ai une tendance qui n'est pas à la gloire de Dieu, j'ai à m'en juger et à confesser cela comme un péché. Si je vois que j'ai la tendance à me faire trop de soucis, comment dois-je appeler mes soucis? Des péchés. Et je les confesse et le Seigneur m'en libère. Car nous n'avons pas le droit de nous mettre en souci, puisque le Seigneur a pris tout notre souci. Nous n'avons pas le droit d'entrer dans de mauvaises tristesses, parce que toutes nos tristesses, le Seigneur les a prises. Vous n'avez pas le droit de vous laisser accuser par Satan. C'est l'accusateur des frères qui voudrait vous détruire. Le Seigneur a pris toutes ces accusations sur lui. Et alors, il voudrait que vous soyez toujours dans la louange et dans la reconnaissance. Mais quand nous nous approchons de la table du Seigneur, et c'est là peut-être une des grandes lacunes, il y a une présence réelle à la table du Seigneur. Nous ne croyons pas à une transubstantiation, à un changement des substances. Jésus ne se laisse pas enfermer dans un morceau de pâte. Ce n'est pas cela, mais il a dit que là où deux ou trois sont assemblés en son nom, qu'il est là au milieu d'eux. Et quand nous prétendons avoir communion avec lui par le pain et par le vin, discernant que nous sommes membres du corps de Christ, liés les uns aux autres, eh bien, si dans ce moment-là, nous ne sommes pas en règle avec le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose. Nous mangeons et nous buvons un jugement contre nous-mêmes. Et la présence du Seigneur est si réelle que beaucoup, dit l'apôtre, sont malades parmi vous et qu'un grand nombre même sont morts physiquement. Prendre la scène alors qu'on a une haine contre son frère, qu'on a une rancune contre son frère, qu'on ne peut pas lui pardonner, puis on prend la scène quand même, et bien on se détruit spirituellement. Vous détruisez votre vie spirituelle. Vous savez très bien que vous devriez pardonner. Et vous ne voulez pas, et vous vous faites du mal. Mais vous voulez quand même garder les apparences, alors vous venez à la table du Seigneur. Il n'est pas question de cela. Il est question d'aller trouver ton frère, de faire le premier pas, puis de lui dire, écoute, c'est pas possible que ça continue. Vous ne devez pas dire, mais moi je m'en vais perdre la face, c'est à lui à venir. Tu as quelque chose contre ton frère, va le trouver. Mais va le trouver dans l'humilité. Et règle la chose avec. S'il ne veut pas, c'est une autre affaire. C'est lui qui en devient responsable, comprenez-vous? Mais quand on découvre en soi quelque chose, ou regardez comme Judas, il avait une tendance, c'était quoi? L'amour de l'argent. Il était le trésorier. Il aimait beaucoup mieux recevoir les dons qui mettent sa dîme à lui. Hein? Alors oui, ça c'était une bonne affaire. Il était un bon trésorier. Il était le trésorier du Seigneur. Mais il aimait l'argent. Et quand on découvre, par exemple, qu'il y a de l'avarice au fond de notre cœur, qu'on n'est pas capable de donner de son bien, car être au Seigneur, c'est aussi faire part de nos biens, parce que sans ça, à qui iront-ils ces biens? Vous montrez au ciel avec votre portefeuille? Dans quelle poche? Les poches de votre robe de noces? Hein? Puis quel argent? Le dollar canadien ou américain ou le français? Que nous allons partir avec cet argent? Non? Alors, servez-vous de ces richesses injustes, comme dit le Seigneur, pour le bien, pendant que vous êtes en vie, pendant que vous êtes sur la terre. Mais vous direz, oui, mais puis ma vieillesse. Vous attendez la vieillesse? Oh. J'attends le Seigneur. Et puis vous croyez qu'il n'aura pas soin de ma vieillesse? Thérèse nous a fait lire le psaume 103. Et qu'est-ce qu'il est dit dans le psaume 103? Vous l'avez écouté? Il rassasie de misère ta vieillesse. Hein? C'est ça qu'elle a dit. Il rassasie de bien ta vieillesse. Alors ne comptons pas trop sur la sécurité sociale. Ce serait béni que ça soit là, cette sécurité. Mais notre sécurité, c'est qui? C'est le Seigneur, croyez-le. Redevenons de ces simples. Puis s'il le faut, eh bien, je sais très bien que les corbeaux d'Élie sont morts, mais le Dieu d'Élie n'est pas mort. Et il a d'autres oiseaux
pour vous fournir le pain et la viande aux heures des repas. Et c'est drôle, hein, ces corbeaux, ils auraient pu manger ce qu'ils apportaient, non? Ils apportaient fidèlement la nourriture aux pauvres. Que c'est beau! Pourquoi est-ce que nous ne redevenons pas saints? Nous ne pouvons plus voir ces choses-là parce qu'on n'y croit pas. Parce qu'on a trop de facilité. Mais partout dans ces pays de l'Est où ils ont des persécutions, et même dans ces lieux où il y a de la famine, il y a des miracles. Il y a des miracles aujourd'hui. Il y a un peu. Le Seigneur se manifeste, il y a des interventions angéliques. C'est absolument certain, mais ici, on n'a plus besoin des anges. On a les anges de la route. Pour vous mettre des contraventions. Ça, vous appelez pas ça les anges de la route au Canada. C'est en France qu'on appelle ça les policiers, les anges de la route. Alors, nous nous jugeons nous-mêmes. Nous nous jugeons nous-mêmes. Relisez ce verset. Ça, c'est verset 26. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Il n'est pas dit qu'il ne faut pas communier, mais qu'il mange du pain et qu'il boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et des malades et qu'un grand nombre sont morts. Ça peut aller jusqu'au retranchement du corps. Je ne dis pas que ces gens sont perdus, mais ils ne peuvent plus être des témoins. Ils ne peuvent plus être des témoins, alors Dieu les reprend. Et c'est pourquoi Paul disait qu'il aurait aimé achever sa course, parce qu'on peut être retranché à la moitié de nos jours si nous ne marchons pas avec fidélité, si nous ne sommes pas un témoin, le Seigneur peut nous reprendre. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, c'est des croyants qui les disent ça, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Comprenez-vous? Alors, je dois m'examiner et si vraiment je ne veux pas me juger moi-même, il me laisse cette liberté, Seigneur, bien le Seigneur permettra des épreuves. Il châtie celui qu'il aime. Mais ce n'est jamais dans sa colère. Il n'y a plus de colère pour les croyants. Mais il y a encore la discipline, parce que nous sommes des fils. Et étant des fils, le Seigneur ne nous considère pas comme des bâtards, alors il prend soin de nous et il nous discipline. C'est le chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux, qui a déjà été lu partiellement aujourd'hui, et que nous examinerons la semaine prochaine. Il n'y a plus de colère pour le chrétien. Mais il y a les châtiments. Et le châtiment que le Seigneur inflige à ses enfants, c'est pour leur bien, pour notre éducation. Avant que je fusse affligé, dit le psalmiste, j'errais. Mais maintenant, je garde ta parole. Il était bon pour moi que je sois affligé. On arrive à reconnaître. Il a fallu telles épreuves pour qu'on comprenne quelque chose. Le Seigneur ne voulait pas nous affliger, mais on n'a pas compris les moyens les plus doux qu'il employait, alors il frappe un petit peu plus fort pour nous réveiller, parce qu'il veut que nous participions à sa sainteté. Il nous voudrait tel qu'il le désire. Alors il nous façonne comme un père et qui a un intérêt pour son enfant. Alors ça c'est un jugement que nous pouvons nous appliquer nous-mêmes, sous le regard du Seigneur. Et on peut trouver un troisième jugement. Alors, quand nous serons ravis auprès du Seigneur si nous sommes vivants à sa venue pour l'enlèvement des croyants, ou si morts, nous sommes ressuscités parce que nous serons morts dans la foi, avec les croyants ressuscités, nous les vivants qui demeurons, nous serons emportés sur les nuées du ciel, et ce sera le jour du Seigneur, le jour de Christ, le jour où dans le ciel seront célébrées les noces de l'agneau. Mais nous apprenons qu'avant les noces de l'agneau, nous comparaîtrons tous devant le tribunal du Christ.
Ça, c'est un jugement qui est fait pour les croyants. Tous les croyants, donc tous les sauvés, ils ne viendront pas en jugement quant à leurs âmes, hein, puisque Jésus a porté nos péchés. Nous sommes sauvés. Mais nous passerons devant le tribunal du Christ pour être examinés quant à nos œuvres depuis notre conversion. Depuis le jour où nous avons prétendu appartenir au Seigneur, qu'avons-nous fait de notre vie? Vous lisez cela dans le chapitre 14 des Romains, si vous voulez prendre le temps de lire, je vous fais simplement la citation, et dans le chapitre 5 de la deuxième épître aux Corinthiens. Il est dit ceci au verset 10. Au verset 9 déjà. C'est pour cela, nous sommes pleins de confiance, c'est pour cela que nous nous efforçons d'être agréables au Seigneur, que nous demeurions dans ce corps ou que nous le quittions. Ça veut dire que nous vivions ou que nous mourions. Comme il est dit dans les Romains au chapitre 14, verset 8, soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car, verset 10, il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Là, il n'est pas question de gens qui seront perdus, mais le Seigneur appréciera ce qui a été fait pour lui. Et c'est là que vous rejoignez les chapitres 3 de la première épître aux Corinthiens, où vous lisez, c'est le même jugement, que le fondement qui a été posé, que Paul a posé, c'est Jésus-Christ. Mais maintenant, depuis que nous croyons, nous bâtissons sur le fondement. Alors il nous faut veiller à la manière dont nous bâtissons. Verset 17 du chapitre 3. Il est dit que nous sommes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en nous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Et alors, un peu avant, il est dit cela, au verset 10, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin ou du tôle, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. C'est pas l'homme qui sera éprouvé, comprenez-vous? C'est notre œuvre. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Juste sauvé, hein. Ce n'est pas ce que vous voudriez. Vous voudriez avoir une riche entrée dans le royaume et recevoir une couronne. Non pas pour vous glorifier et l'avoir sur la tête, mais pour qu'au moment où nous nous prosternons devant le Seigneur, comme il est dit dans l'Apocalypse, les saints jettent à ses pieds leur couronne. Et jetant à ses pieds leur couronne d'or, ils adoreront le Seigneur. Ces couronnes, ce seront les récompenses que le Seigneur donnera à ceux qui auront été fidèles dans les petites choses. Voyez-vous, tout ce dont on aura parlé sur la terre, tout ce dont on se sera glorifié, on n'en entendra pas parler dans le ciel. Vous avez déjà votre récompense sur la terre. Mais ce sont toutes les choses qui ont été faites dans le secret qui seront alors magnifiques. Et c'est pourquoi il a dit que les premiers seront les derniers et les derniers
les premiers. Si vous faites des œuvres pour être vu par les hommes, vous avez votre récompense sur la terre. Mais si, quand vous priez, si vous avez une vie de prière, vous entrez dans votre cabinet, vous fermez la porte sur vous, vous priez dans le secret, votre Père qui voit dans le secret vous récompensera. Et un jour, il sera manifesté dans la gloire que vous avez été vraiment un homme de prière. C'est pas de faire des longues prières et d'avoir des génuflexions et tout cela qui est la vraie piété. La vraie piété, elle est au fond de notre cœur. Et ce que nous avons à vivre, c'est une vie de prière. Prier sans cesse, c'est avoir une vie ouverte à Dieu. C'est faire entrer Dieu dans toutes nos décisions, que nous allions chez le coiffeur ou chez la coiffeuse, dans les choses les plus matérielles, les plus terre à terre, nous dépendons du Seigneur. Et c'est cela, la vie avec Jésus, c'est une vie où nous avons un compagnon, ou mieux encore, où nous l'accompagnons. Nous marchons derrière lui dans les traces qu'il nous a laissées. Alors, dans ce moment, là, au tribunal du Christ, nous aurons des surprises. Parce que toute notre vie nous sera manifestée dans la pleine lumière, de sorte que si vous n'êtes pas jugé sur la terre, ben ça sera manifesté dans le ciel. Il y a des choses qui ne sont pas réglées sur la terre. Et il y a des gens qui sont morts sans que ça soit réglé, mais ça sera manifesté. Avant les noces de l'agneau, parce qu'il veut se présenter, son épouse, glorieuse, sans tache, ni rien, ni rien de semblable. Alors il faudra qu'il y ait une grande manifestation devant le tribunal de Christ. Je sais que dans la lumière du tribunal de Christ, un jour vous verrez le fond de mon cœur. Que je ne vous montre pas. Mais je sais. Alors je n'ai pas porté de main. Mais vous savez cela, que je me suis manifesté au tribunal de Christ. Est-ce que vous pouvez continuer de mentir? Comme chrétien? Est-ce que vous pouvez continuer d'être avare? Le Seigneur dira, mais qu'est-ce que tu as fait? Tu avais conçu cela. Qu'est-ce que tu en as fait pour moi? Oh, j'étais horrible. Je disais, mais c'était pas ça. Je te donnais à toi des possibilités de faire le bien. Je te donnais à toi des possibilités d'aider les autres, d'aider tes frères. Et tu ne l'as pas. Tu as vécu en égoïsme. Alors, qu'est-ce que tu veux que je te confie dans l'administration de mon royaume? T'as envie que d'autres, dont on n'aura peut-être jamais parlé, passeront les premiers. Pourquoi? Parce que le Seigneur montrera que tout ce qu'il faisait, il le faisait d'une façon cachée, non pas pour être vu, mais le faisait pour le Seigneur. Et alors, dans le ciel, le Seigneur les manifestera. Est-ce que vous réjouissez ce moment? Le tribunal de Christ. Paul vivait d'une certaine manière, il disait qu'il s'en réjouissait. Il n'avait pas peur. Et nous ne devrions pas avoir peur. Soyons en règle avec le Seigneur. Et quel est le moyen d'être en règle avec le Seigneur? C'est l'aimer. Aimons-le. Et nous serons dans la paix. Et même plus nous verrons et que nous aurons justement cette honte sur bien des points, et bien, vous vous dites, mais alors ça ne vaut pas la peine, ce ne sera pas le ciel. Oui, ce sera le ciel. Parce qu'alors, vous penserez sur vous comme Dieu pense. Vous serez d'accord avec Dieu sur son appréciation. Mais il ne pourra pas vous donner tout ce que vous ne pouvez contenir. Si vous avez été, comme on le dit quelquefois, un petit vase, enfin, ce verre d'eau, ce verre, il ne peut pas contenir ce qu'il y a dans cette cruche. Parce que ce qui arriverait, ça déborderait. Eh bien, dans le ciel, si vous avez la capacité d'un verre, vous serez rempli complètement. Mais ceci aura plus que le verre. Et le verre ne pourra pas demander plus si vous en contenir plus. La capacité de la jouissance dans le ciel, quand on parle de ces plusieurs demeures, il y aurait tout un enseignement à voir là. La capacité de jouissance des croyants dans le ciel, c'est maintenant quelque chose. Plus vous contenez le Seigneur sur la terre, plus vous contiendrez dans la gloire. L'éclat de l'étoile, elle se forme ici-bas. Une étoile diffère d'une autre étoile en gloire. Alors, si vous avez su briller pour le Seigneur, vous brillerez aussi dans l'éternité. Voilà le tribunal de Christ.
Ce n'est donc pas un jugement des perdus que le jugement des sauvés. On n'est pas jugé quant à nos âmes, mais on est jugé quant à nos dons. Mais l'œuvre de Satan subira l'épreuve du feu. J'espère avoir répondu à la question qui avait été posée au sujet de ce jugement. Et nous pourrions citer d'autres passages où l'apôtre Paul dit au chapitre 4 de la première aux Corinthiens, c'est pourquoi nous vivrions avant le temps jusqu'à ce que le Seigneur vienne, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera le dessein des cœurs. Alors Satan recevra de Dieu la louange qui lui sera dite. Hein? C'est le chapitre 4. Le dessein des cœurs, pas seulement les œuvres extérieures, mais qui nous a motivés de faire telle ou telle chose. C'est pourquoi nous devons devenir très sérieux, même dans l'accomplissement des bonnes œuvres. Ensuite, vous avez un autre jugement, nous allons être brefs, le jugement des individus faisant partie des nations dans le chapitre 25 de Matthieu. Malheureusement, dans la Bible seconde 1910, je crois qu'il y a cette erreur. Non, c'est dans une autre Bible. Où il est mis jugement dernier. Ce n'est pas le jugement dernier. Dans le chapitre 25 de Matthieu, il est bien dit jugement des nations par les fils de l'homme. Est-ce que ce jugement a-t-il lieu? Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, c'est pas quand il vient d'abord sur les nuées du ciel pour enlever les siens. Il revient avec les siens dans sa gloire. Nous aurons encore l'occasion de parler du sien. Son retour en gloire, c'est en deux phases. Il revient d'abord sur les nuées, il enlève auprès de lui son église, il la fait entrer dans les lieux célestes, il la présente à son père, il y a le tribunal de Christ où toutes choses sont réglées et il y a les noces de l'agneau. L'épouse est revêtue d'un vêtement éclatant et pur qui sont les justices des saints. Et dans chaque croyant, il n'y aura plus que ce qui est à la gloire de Dieu qui restera. Tout aura été consumé, le reste qui n'était pas selon le Seigneur, à la garde du Seigneur, ça aurait été consumé. On ne restera plus un facteur de nous que ce qui est à la gloire de Dieu. De sorte que quand nous reviendrons avec le Seigneur, il nous dit que le Seigneur sera glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront pris. Que le monde verra un facteur de nous, c'est l'esprit du Seigneur. Il sera glorifié dans ses saints. Et ce sera notre manifestation. Et c'est bien aussi à ce moment-là que Marie, la mère bénie de notre Seigneur, sera manifestée dans la gloire et qui lui sera propre. Cette gloire d'avoir dit sa vie au Seigneur et pour qu'il puisse accomplir en elle toute sa volonté et nous donner un merveilleux Sauveur. Mais nous serons manifestés à ce moment-là aussi. Jusque-là, notre vie est facile et suspendue. Et c'est lui que notre vie, que le Seigneur croit, sera manifestée. Nous aussi, nous serons manifestés en gloire. Et il revient donc, délivrant Jérusalem, délivrant le peuple juif, et toutes les nations sont vues rassemblées devant lui. Et il est dit qu'il sépare les brebis avec les boucs. Et il dit ce fameux phrase, j'ai faim et vous m'avez donné à manger, j'ai soif, vous m'avez donné à boire, j'étais en prison, vous m'avez visité, j'étais malade. Et puis, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison, et vous êtes venu vers moi. Et alors, les juifs, qui disent, mais Seigneur, prêtez, que nous t'avons vu avoir faim, avoir soif, etc. Et le Seigneur leur dit, en tant que vous l'avez fait à l'un de ces petits, qui sont mes frères, vous l'avez fait. À ce moment-là, quand le Seigneur revient en gloire, il viendra les nations d'après l'attitude que ces nations ou les gens des nations auront eu à l'égard des témoins de la dernière heure, de ces témoins vus, et qui souffriront de la part de l'Antichrist, qui n'auront pas voulu recevoir le signe de la bête, et qui ne pourront ni acheter ni vendre par ce signe de la bête sur leur front ou sur leurs mains, et qui seront persécutés et qui iront de lieu en lieu annoncer l'évangile. Ceux qui auront eu de la justice pour eux, ceux qui les auront reçus au risque de leur vie, eh bien, le Seigneur les considérera comme les ils seront jugés d'après l'attitude qu'ils auront eue envers ces gens. Et c'est pourquoi ils disent, mais quand est-ce que nous avons vu? Mais c'était dans les hommes qu'on pouvait voir le Seigneur. Littéralement, c'est là le jugement des nations. Au début du règne, le Seigneur sera entré dans son règne, ceux qui auront une attitude réceptive pour les messagers de l'Évangile, et ils apprendront qu'un saint qu'ils auront donné envers des froides, à l'institut petit que je vous appelle ce saint, hein, qui sont bien les dix, ils l'auront fait à lui. Ça, c'est donc pas le jugement de lui. C'est le jugement des nations qui a lieu au début du règne de Milan, et c'est juste en province dans le royaume. Tandis que ceux qui auront fermé leur cœur à la compassion, eh bien, le Seigneur leur dira, allez vous en maudit dans le ciel éternel, Jésus, vous ne m'avez pas donné à manger. Je vous dis, que si nous avons vu avoir faim, nous ne t'avons pas donné à manger. En fait, vous ne l'avez pas fait, alors que c'est petit, qui sont mes frères, vous ne l'avez pas fait. Amen. Et alors, le dernier jugement, c'est le jugement dernier, que vous avez au chapitre 20 de la prophète. Et c'est là. Après le règne de Milan, il y a la résurrection des morts. Verset 5 du chapitre 20. Ou verset 11 du verset 1. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent, et devant sa face, il ne fut plus trouvé de place pour eux, et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. C'est pas tous les morts, c'est les morts qui sont morts dans l'incrédulité. Ce sont ceux qui n'ont pas eu part à ce qu'on appelait la première résurrection. Il est dit que ceux qui ont part à la première résurrection, c'est la seconde mort, n'a pas ce pouvoir. Mais, à la fin du règne, au moment où le ciel et la terre sont passés, à la fin du monde, vraiment, qui a lieu après les mille ans, du règne du Christ, eh bien, c'est le jugement dernier. Est-ce que vous serez? Vous êtes jugé? Non. On ne passe pas à ce jugement-là. Celui qui a cru, il est passé de la mort à la vie, et il vient pas un jugement. Alors, ce jugement-là ne nous concerne pas. Je vis un grand trône blanc, celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuient devant la face, devant sa face, et ne s'est plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Les livres furent ouverts. Il y a les livres, et puis il y a un autre livre qui est ouvert, qui est celui de la vie, le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leur vie. Comme il y a des gradations dans la jouissance pour les élus, il y a des gradations dans la souffrance pour les damnés. Éléments survivants selon leur vœu, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mort rendit ses morts, qui était en eux. La mort et le séjour des morts rendirent leur mort, qui était en eux. Et chacun se jugeait selon ses vœux. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans le sanctuaire, et la seconde mort le sanctuaire. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de Jésus. Donc, il y a un grand livre, c'est le livre de Jésus. Et dans ce livre, celui qui donne la vie a écrit le nom de tous les vivants. Mais il arrive un moment où la grâce vous ayant été offerte et que vous la refusez, ce qui arrive, votre nom est effacé du livre de Dieu. Et alors, il y a des masques de mort. Votre nom ne s'écrit pas dans le livre de vie. Le jour de votre conversion, comme on le dit si souvent dans des prédications, votre nom, il est écrit dès avant la fondation du monde. Et c'est ça que l'on veut dire. Et on l'apprend. Mon nom, il était écrit dès avant la fondation du monde. Et alors, si je marche avec le Seigneur, si j'accepte son âme, je sais que mon nom ne sera pas effacé. Mais si j'apostasie, si je rejette ce que j'ai reçu, Seigneur, c'est un. Et ce sont là les petits succès qui auront refusé ce droit, qui auront monté le jour. Oh, si tu savais, toi et moi, ce journée qui t'est donné du Jésus-Christ pleurant sur Jérusalem, et ceux qui appartiennent à sa paix, mais ils sont succès. Et qu'il voyait déjà les armées romaines qui allaient prendre Jérusalem, et Jésus pleurait. Est-ce que votre nom, et tout comme ça, je ne pense pas que le nom de tant d'entre vous ne soit effacé. Mais demain, il peut être effacé. Et si vous entendez ça, ne discutez pas le temps. Le Seigneur, le Fils de l'homme, a reçu le pouvoir de vivre celui qui et vivra avec lui tous les jours. Et notre Père, tu as venu tout vivement à ton fils. Et tu as eu, parce que lui a été jugé. Parce qu'il a tenté le nom, tu as donné sa vie. Toi, tu l'as donné dans ton amour pour le monde. Et lui nous a aimés. Le fils de Dieu nous a aimés. Et se livré lui-même. Comment ne lui appartient-il? Seigneur, comme c'est toi, c'est aussi toi, que c'est ton œuvre de toi, et que c'est tout ce que tu sois là-bas. Il est même écrit dans la vie, et continue. La grâce que nous tenions pour ceux qui ne seraient pas tous seuls. Amen. Prenez-nous tous. Tu sais si nous t'appartenons. Et si nous vivons simplement qu'il t'appartient. Celui qui a le Fils, a le Fils. Celui qui n'a pas le Fils, je s'appelle Père. Ne nous demande rien de plus. Il s'appelle Père. Quelqu'un est tellement bien et qui l'ouvre entre vous. C'est tout seul et bien. Seigneur, un seul Père. Prenez toute la place Et si nous avons déjà reçu, accorde-nous la grâce du ciel de te remettre les clés de notre vie. Afin que tu sois plus capable. Que nous ne réservions pas une seule secrète sur nos vies, mais que nous te donnions. Que tu sois, tu nous sois, tu purifies notre vie. Et qui t'y installera, et qui ensuite nous y restera, de sorte que nous serons faits. Et nous te lire, et nous te remettons encore pour ce qui, Madame Le Pen, nous te demandons de la bénir au-delà de toutes nos vies, de visiter sa famille, de bénir son mari, de lui enlever tout ce qui veut. Et d'œuvrer dans tout ce qu'il a fait. Tu veux notre vie, nous te prions aussi pour Dieu, une parole, pour le témoignage, pour sa famille en deuil, inspire-les, que leur simple attitude puisse parler à leur femme, et que dans ton âme, tu permettes que toutes ces épreuves soient trouvées pour nous, à ta vie. Merci aussi de ce que nous avons mis en vie. Nous te demandons de l'accorder une nuit de sursaut et de mettre tes mains sous la vie. Que ta main douce soit ta peur et que ta grâce de m'a donné le sens de toi. Te demandons pour elle et ensemble, nous t'en